Bonjour. Ils ont deux jours pour prendre des engagements sur le climat, l'économie, la santé. Les dirigeants du G20 sont arrivés à Rome. Nous sommes sur place dans un instant. Parmi les engagements auxquels on s'attend, intensifier les efforts pour limiter le réchauffement climatique, un objectif qui sera réaffiché à la COP26 de Glasgow. Des trains pour le climat sont en route pour l'Écosse. La relève se fait attendre dans la Station spatiale internationale. Le décollage de la capsule Crew Dragon qui devait avoir lieu demain est reporté à mercredi à cause d'une tempête. Thomas Pesquet patiente, son journal de bord épisode 26 à suivre. Dans ce journal, un trader d'une filiale d'EDF perd 400 millions d'euros en spéculant sur les marchés de l'énergie. Les enfants américains bientôt vaccinés contre le Covid-19 dès 5 ans. Et le choix culturel d'Inter, un livre recueil de faire-part de décès, humour noir garanti. 4 départements sont en alerte orange, pluie, inondation, le Var, la Lozère, le Gard et l'Ardèche. L'épisode Cévenol se poursuit, prévision complète à la fin de ce journal. Et puis juste après, vous avez rendez-vous avec Secret d'Info. Au sommaire aujourd'hui, une histoire de gendarmes et de paysans. De quoi s'agit-il, Jacques Monin ?
Eh bien, les dérives de la cellule Déméter, créée au sein de la gendarmerie pour protéger les agriculteurs. Certes, elle enquête sur des vols ou du vandalisme, mais on verra qu'elle s'intéresse aussi à des actes qui relèvent du militantisme ou même de la simple critique du modèle agricole intensif.
Secret d'Info à 13h20.
France Inter.
Week-end à Rome pour les dirigeants des 20 plus grandes puissances de la planète. Le G20 ouvre en ce moment même dans la capitale italienne. L'un des sujets brûlants, ce sera bien sûr le climat à la veille de l'ouverture de la COP26, mais aussi la reprise économique post-Covid et la santé. Ce sont les premières retrouvailles en présentiel depuis le début de la pandémie pour ces chefs d'État. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Rome. Les dirigeants sont arrivés en fin de matinée dans le quartier de Léour, au sud de Rome, quartier créé par Mussolini dans les années 30. Et sur la photographie d'aujourd'hui, il y a quelques absents qu'on remarque.
Ah oui, dès 10h, les dirigeants du G20 ont commencé à arriver à la Nuvola, le nuage, ce bâtiment immense inauguré il y a 5 ans. Mario Draghi les a accueillis sur le tapis rouge, un par un, et l'absence des chefs d'État chinois et russes, notamment, n'est pas passée inaperçue, même s'ils participeront en visioconférence au débat. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères chinois a discuté plus longtemps que les autres avec Mario Draghi sur le tapis rouge, Emmanuel Macron aussi. Et puis, ils ont tous posé ensuite pour la photo de famille, avec au centre le personnel sanitaire italien. Les dirigeants ont alors entamé la première session de travail. Elle est consacrée à l'économie internationale et à la santé. Et ils ont un objectif de vaccination. Le G20 doit l'acter dans le communiqué final. 40% de la population mondiale vaccinée d'ici la fin de l'année et 70% dans les 6 premiers mois de l'année prochaine. Les pays les plus pauvres doivent être aidés. Il manque 20 milliards selon l'Organisation mondiale de la santé.
Et comme à chaque réunion du G20, des manifestations sont prévues cet après-midi. Certaines autorisées, d'autres non. Y a-t-il déjà des tensions à Rome, Bruce ?
Alors, pas de tension encore palpable, mais ce matin, avant l'arrivée des dirigeants, quelques militants et activistes pour le climat ont tenté de bloquer la Via Cristoforo Colombo qui rejoint le centre de Rome au quartier de Léour. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre présentes à peu près partout dans Rome. Les militants réclament des résultats sur le changement climatique, sinon ils bloqueront la ville, disent-ils. Cet après-midi, 2 manifestations sont autorisées dans le centre de Rome, en tout cas loin du quartier de Léour, mais je peux vous dire qu'elles seront extrêmement surveillés. Il y a 5300 policiers carabiniers militaires de plus que d'habitude déployés dans la capitale italienne, centre du monde ce week-end.
Bruce de Galzin en direct de Rome. Voilà pour le in du G20. Pour le off, il devrait y avoir une rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Les sujets de discorde s'accumulent entre la France et la Grande-Bretagne depuis le Brexit, sur l'immigration et surtout sur les autorisations données aux pêcheurs français pour travailler dans les eaux britanniques. Sur ce dernier dossier, les Français ont annoncé des mesures de rétorsion si rien ne s'améliore d'ici à mardi. Et le président français a mis un coup de pression hier. Dans une interview au quotidien britannique, le Financial Times, Emmanuel Macron a estimé que la crédibilité du Royaume-Uni était en jeu, qu'il s'agissait là de respecter la parole donnée. En réponse, Johnson se dit prêt ce matin à activer pour la première fois depuis le Brexit l'outil juridique pour demander à l'Union européenne de trancher. La mer est donc houleuse. L'ambassadrice de France à Londres a été convoquée hier au Foreign Office. Et puis des nouvelles de la reine Elisabeth. Elle est en très bonne forme selon Boris Johnson. Johnson a 95 ans et après une courte hospitalisation, elle doit simplement prendre du repos, a déclaré ce matin le Premier ministre britannique. Dès demain, le centre du monde se déplacera de Rome à Glasgow, en Écosse, puisque ce sera l'ouverture de la COP26. Du 1er au 12 novembre, les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques seront réunis pour tenter d'éviter la catastrophe vers laquelle on se dirige tout droit. Et pour s'y rendre, certains citoyens engagés, membres d'organisations non gouvernementales, refusent de prendre l'avion trop polluant. 500 personnes ont donc quitté Amsterdam ce matin à bord du train du climat. Il fait en ce moment un arrêt à Londres, où un autre train affrété par la SNCF l'a rejoint. Cécilia Arbona, ce petit train du climat a quitté la gare du Nord de Paris à 9h ce matin.
Oui, à bord de cet Eurostar numéro 9015, eh bien, des passagers, des sentinelles de la planète, Action contre la faim, Care France, WWF, Fresque du climat ou encore le RAC, le réseau Action Climat. Ces voyageurs inquiets ont pris la parole à tour de rôle dans la rame pour partager leurs connaissances. Écoutez Mickaël Lemarchand, il est directeur de l'engagement sociétal et transition écologique à la SNCF.
C'est beaucoup de pédagogie d'abord à bord du train. On a pu partager le savoir des spécialistes, des experts et notamment la différence qu'il y a entre un accroissement de la température de 1,5 degré et 2 degrés. On a tendance un peu trop rapidement à considérer que 1,5 ou 2 degrés, c'est la même chose. Et en fait, c'est une erreur fondamentale. Et on a fait évidemment un petit zoom sur les transports, puisque les transports en France, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre. Et le ferroviaire, c'est que 0,3% pour 10% de parts de marché. Et donc, nous avons rappelé que le ferroviaire faisait partie de la solution. Mais ce n'est pas contre les autres, c'est pour pouvoir réussir collectivement.
Mickaël Lemarchand. Et la discussion se poursuit maintenant à bord d'un autre train des chemins de fer britanniques, cette fois Go to Glasgow.
Plus de 50 millions de Français présentent un schéma vaccinal complet selon les tout derniers chiffres de Santé publique France. 74% de la population éligible au vaccin contre le Covid-19 a reçu 2 doses. Chez nous, c'est à partir de 12 ans, tandis que les États-Unis s'apprêtent à proposer la piqûre à partir de 5 ans. L'Agence américaine du médicament a donné hier son feu vert pour du Pfizer pour enfants. À Washington, pour France Inter, Sébastien Paour.
Cette autorisation en urgence de la FDA, nombre de parents l'attendaient depuis la rentrée de septembre. Elle fait suite aux discussions houleuses des derniers jours au sein du comité consultatif de l'agence, comité qui a finalement donné son feu vert à la quasi-unanimité, moins une abstention. 28 millions d'enfants vont donc pouvoir recevoir leurs premières injections du vaccin Pfizer dès la semaine prochaine, sur le même schéma que pour les adultes et les adolescents. 2 doses à 3 semaines d'intervalle, des doses de 10 microgrammes, c'est-à-dire qui représentent un tiers de celles pour les adultes et qui devraient être disponibles dès lundi dans 25 000 cabinets de pédiatrie, ainsi que dans les cliniques et des dizaines de milliers de pharmacies. Les sondages montrent qu'environ un tiers des parents américains sont prêts à faire vacciner leurs enfants dès maintenant. D'après les autorités fédérales, près de 2 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans ont été infectés par le Covid ici aux États-Unis. Au moins 94 en sont morts. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
La Colombie, elle, autorise le vaccin chinois Sinovac aux enfants à partir de 3 ans. Premières injections demain. La capitale Bogota va imposer le pass sanitaire pour les événements culturels et sportifs. Et puis l'archipel des Tonga en Polynésie, épargné par le coronavirus jusqu'ici, connaît sa première contamination. Mesure radicale, l'île principale risque le confinement la semaine prochaine. Au Soudan, la société civile descend en masse dans la rue depuis quelques minutes dans la capitale Khartoum pour protester contre le coup d'état militaire mené lundi par le général Abdel Fattah Burhan. La communauté internationale craint une répression dans le sang et prévient qu'elle scrutera la réponse de la junte à cette mobilisation de la population soudanaise. 11 manifestants ont été tués depuis lundi. Dans les Hautes-Alpes, les migrants de Briançon ont investi un nouveau refuge. L'église qui leur avait ouvert ses portes en début de semaine ne pouvait pas les accueillir plus longtemps. Le bâtiment n'est pas adapté et puis il y a les cérémonies de la Toussaint qui arrivent. Alors en fin de matinée, une quinzaine d'exilés ont été pris en charge par des habitants et des bénévoles de l'association des Solidaires de Briançon qui les ont mis à l'abri dans un bâtiment public. Nicolas est le porte-parole de l'association.
Sans nouvelles et sans réponse de la préfecture, nous sommes allés dans un autre lieu public qui était ouvert pour mettre les gens au chaud. Il faut savoir qu'ici il pleut. On est quand même au cœur des Alpes et qu'il fait froid. C'est un ancien centre de vaccination qui est aujourd'hui inoccupé. C'est surtout une grande pièce qui est chauffée avec de la lumière et des sanitaires. et on est rentré. Alors là, il y a environ une quinzaine de personnes exilées qui sont avec nous. Après, il faut savoir que potentiellement, tous les jours, des nouvelles personnes peuvent arriver. Donc là, on met à l'abri ces 15 personnes. Mais l'idée, c'est aussi de dire que ce soir ou peut-être demain, d'autres vont arriver. On veut vraiment qu'il y ait un lieu, un dispositif d'accueil dans la durée, de jour comme de nuit, pour pas qu'elles se retrouvent en danger. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans une région montagnarde. Et ici, tout le monde est conscient de tous les risques liés aux conditions climatiques.
Un porte-parole de l'association des Solidaires de Briançon. On apprend à l'instant que la police vient d'arriver sur place. Des discussions sont en cours avec un représentant de la mairie.
France Inter, le journal de 13h, Cécile Bideau.
À l'heure où les Français voient leur facture d'électricité s'envoler, c'est un chiffre qui donne le vertige. Une filiale d'EDF, EDF Trading, a perdu 400 millions d'euros en spéculant sur les marchés de l'énergie. L'information est publiée par le Figaro ce matin. Et cette perte colossale serait due à un pari hasardeux d'un trader, Philippe Lefebvre.
Début octobre, un trader travaillant pour une filiale d'EDF spéculait sur une baisse du prix de l'électricité produite et livrée aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 8h et 20h du lundi au vendredi. Seulement voilà, les faits lui ont donné tort, les prix n'ont cessé de grimper, conséquence notamment de la hausse du prix du pétrole et du prix du gaz. Résultat, EDF s'est retrouvé face à une perte faramineuse, 400 millions d'euros, un record dans ce secteur où la perte la plus importante qui avait été enregistrée par un trader norvégien était de 100 millions d'euros en 2018. Situation, vous vous en doutez, très gênante à la fois pour EDF mais aussi pour Bercy car il faut le rappeler, EDF est détenu à 80% par l'État mais chez le fournisseur d'électricité où l'on ne fait pas de déclaration officielle, on laisse entendre que cette perte aurait d'ores et déjà été compensée par d'autres gains. Le trader quant à lui a été licencié et le titre EDF baissait de 2,38% à la clôture de la Bourse de Paris hier soir.
Des tarifs de l'électricité à ceux du gaz, il y a de l'espoir de voir le marché se rééquilibrer ces prochains mois, notamment grâce à la Russie, premier fournisseur de gaz de l'Europe, qui a annoncé qu'elle ouvrait les robinets. Invitée dont n'arrête pas l'écho ce matin sur France Inter, Catherine McGregor, directrice générale d'Engie, tient un discours raisonnablement optimiste.
C'est vraiment très difficile à prédire hein, les cours du gaz. Moi, je pense que l'hiver va être une période un petit peu compliquée, mais on peut espérer qu'après l'hiver, on devrait voir, disons, une relaxation de la situation. En tout cas, je l'espère.
Concrètement, vous espérez voir les cours baisser à partir de mars-avril ?
À partir du printemps, on peut espérer que les cours vont effectivement baisser un petit peu, mais on n'en est encore une fois jamais sûr.
La directrice générale d'Engie au micro d'Alexandra Ben Saïd. Des révélations 3 ans après la mort d'une femme à Marseille en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Zineb Redouane a été touchée par un tir de grenade lacrymogène en plein visage alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de son appartement. France Inter confirme aujourd'hui que le directeur de la police nationale a décidé de ne pas sanctionner les deux CRS à l'origine de ce tir. Il estime qu'ils ont manqué de discernement, certes, mais que cela peut s'expliquer par le manque de visibilité, la nuit tombante et la fumée. Information développée sur franceinter.fr. 4, 3, 2, 1. Samedi 13h13, l'heure de notre voyage dans l'espace pour feuilleter le journal de bord de Thomas Pesquet. L'astronaute français doit revenir sur Terre ce mois-ci, mais pour l'instant, au mois de novembre, au début novembre, mais pour l'instant, Sophie Becherel, il n'y a pas de date précise sur son agenda.
En effet, la NASA n'annoncera que 48 heures à l'avance la date précise du retour de Thomas Pesquet et de ses coéquipiers. La raison, c'est qu'il faut d'abord que l'équipage suivant arrive dans l'ISS. Or ce matin, les prévisions météo ont contraint l'agence spatiale américaine à reporter de 4 jours le décollage de la capsule Crew Dragon 3. Des vents violents sur sa route vers l'ISS sont annoncés. La prochaine date envisagée pour le décollage est le 3 novembre, ce qui repousse d'autant le retour de l'astronaute français. Le programme des derniers jours n'est pas pour autant changé. Travail scientifique, maintenance de la station et sport, 2 heures quotidiennes mais un peu différentes afin de contrecarrer au mieux le retour brutal à la pesanteur terrestre. Alors entre le vélo, la course à pied et la musculation, le cocktail d'entraînement est légèrement modifié, nous explique Thomas Pesquet.
Dans les dernières semaines, oui, on augmente un peu les charges, on court sur le tapis roulant en mode passif, c'est-à-dire que plutôt d'avoir le tapis roulant qui défile, on l'entraîne nous-mêmes avec nos pieds en courant, donc en poussant sur un support, donc c'est super plus difficile évidemment. On va aussi avoir un peu comme un pantalon anti-gé qui va nous compresser les membres inférieurs qu'on porte sous les scaphandres pour cette raison qu'on ne veut pas que les fluides descendent et que ça nous provoque des vertiges ou des évanouissements. Et puis on prend beaucoup de fluides en fait avec des tablettes de sel tout bêtement, de sodium, et pour vraiment retenir tous les fluides, et on boit énormément d'eau. Et puis dès qu'on est au sol, et ben là, les gens vont s'occuper de nous. On va avoir une intraveineuse pour la même raison, pour s'hydrater un peu, pour avoir des fluides. Et puis on va passer beaucoup de temps assis, couché ou dans les premières heures.
Comment va se passer la passation avec le nouvel équipage, en particulier votre collègue européen Mathias Maurer?
La première chose qu'on fait, c'est toujours tout ce qui est sécurité, urgence, incendie, etc. Donc vraiment les briefs, chacun son rôle, où sont les masques. Il ne s'agirait pas que 5 personnes se jettent sur le même masque à oxygène pendant la nuit dans le noir, ça ne passerait pas bien. Donc il y a plein de petites choses comme ça à organiser. Et puis la vie de tous les jours, on va les briefer au fur et à mesure. Évidemment, ils sont entraînés, hein, mais là, il y en a quand même sur 4, il y en a 3 dont c'est la première mission. Donc on essaie de leur passer le plus d'infos possible dans le temps imparti, et notamment moi avec Mathias sur tout ce qui est européen, sur les expériences scientifiques notamment. Il y aura des gens partout, on va être 11, ça va être très rapide, il y aura beaucoup de choses à faire, ce sera hyper intense et peut-être un peu chaotique. Et moi en tant que commandant, je suis un peu avoir le rôle de donner le tempo à tout ça et d'organiser un peu tout ça. Donc j'espère qu'on aura le temps de se poser un peu sans doute le soir et puis vraiment de parler en profondeur de ce qui va se passer. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis, il a été bien entraîné, donc de toute façon ça se passera très bien.
Avec quoi allez-vous repartir de l'ISS? Est-ce que vous avez beaucoup de bagages?
Il n'y a pas grand-chose en fait avec lesquels on repart sur le Crew Dragon parce que c'est limité en masse. On a notre kilo et demi, celui avec lequel on a quitté la Terre. Et celui avec lequel on revient, donc on a le droit de substituer des choses du moment que ça rentre un peu dans le volume et dans le poids. Mais non, moi j'ai à peu près la même chose, un livre ou deux, un patch ou deux, des bijoux d'amis, et puis pas grand chose d'autre. En fait, on n'a rien le droit de prendre de l'ISS. Évidemment, ce serait facile de dire, oh bah tiens, il y a ce petit panneau là qui dit sortie de secours ISS, ça ce serait vraiment super cool de l'avoir dans mon salon. Si vraiment les gens commençaient à faire ça, bah, évidemment, ça marcherait pas très longtemps, donc non, c'est clairement interdit de ramener quoi que ce soit.
Cette fois, pas de step kazakh pour votre arrivée, mais un amérissage. C'est très différent, non?
Alors la rentrée atmosphérique, c'est exactement la même chose, quasiment, que ce que j'ai connu pour le Soyouz. Hein. Si je la fais en rapidement, on quitte la station, on se désamarre. On fait la rentrée atmosphérique, freinage avec le bouclier thermique, évidemment, ça s'échauffe à 1600 degrés, boule de feu, etc. On ouvre le parachute. Alors, il y a 4 parachutes qui s'ouvrent à 5,7 km à peu près d'altitude. Mais ensuite, on descend à 8 ou 9 mètres seconde. Donc, c'est quand même assez vite, hein. 8 ou 9 mètres. 9 mètres, c'est 3 étages. Hein. Donc, 3 étages par seconde. C'est quand même une chute assez rapide. Et puis, à cette vitesse-là, là, on va taper assez fort dans l'eau. Et puis, ensuite, la capsule flotte. Évidemment, on a fermé tous les orifices qu'il pourrait y avoir. Et puis évidemment, on est suivi pendant toute la rentrée au GPS, hein, entre autres. Ensuite, on amène la capsule sur le bateau, on l'ouvre, les astronautes sont extraits, les médecins les attendent, un hélicoptère nous ramène au sol. Et ensuite, c'est le retour dans nos pénates.
Mission Alpha, le journal de bord de Thomas Pesquet, avant-dernier épisode. L'intégralité de la série est à lire et à écouter sur franceinter.fr. On ne sait pas si Thomas Pesquet va remonter sa montre, mais on passe à l'heure d'hiver la nuit prochaine. À 3h, il ne sera que 2h. Vous pouvez donc dormir une heure de plus si le cœur vous en dit. Le choix culturel de France Inter est lié au calendrier. En cette avant-veille de la Toussaint, nous vous conseillons un livre intitulé « L'annonce de ma mort est très exagérée ». Derrière cette citation de Mark Twain, dont la presse avait annoncé le décès par erreur en 1897, on trouve l'ouvrage de Denis Cosnard, journaliste au Monde. Sa passion, ce sont les faire-part de décès. Il les collectionne depuis l'adolescence. Il nous offre ici un florilège qui n'a rien de mortel. Ilana Moriousef.
Il y a un nom pour cette drôle de passion. Denis Cosnard le dit lui-même, il est obituariophile. Autrement dit, passionné par les avis de décès.
J'étais fasciné depuis très longtemps par le fait que c'était un genre littéraire, l'avis de décès. Évidemment, c'est pas étudié au lycée comme le sonnet, le roman ou le drame romantique, mais c'est un vrai genre littéraire, un peu ignoré, sous-estimé, mais passionnant parce que les faire part, on ne parle que de l'essentiel. C'est un texte court où il n'y a qu'un personnage et il meurt. D'emblée.
Dans ce genre très codifié, où on a la douleur, la tristesse, le chagrin de vous faire part d'eux, on trouve quelquefois des formulations qui sortent de l'ordinaire. Le faire part politique.
Celui-ci, par exemple, paru en mai 2016, à la perspective de devoir voter soit Donald Trump, soit Hillary Clinton, Mary Ann Noland de Richmond a préféré se confier à l'amour éternel de Dieu.
Le préféré de Denis Cosnard.
Ça remonte à 1993. On trouvait toute la liste des proches qui annonçaient que Fred, Auguste et Hommel sont arrivés dans l'ordre au Grand Prix de Montparnasse à 9h57 minutes et 42 secondes. Il n'a pas touché les gains, c'était la dernière course. Quand vous tombez sur un chef-d'œuvre comme ça, vraiment, je pense qu'il faudrait créer un prix Goncourt du faire-part de décès.
Excellente idée, il pourrait être proclamé chaque année le jour de la Toussaint.
L'annonce de ma mort est très exagérée de Denis Cosnard et publiée aux éditions du Cherche Midi. Vous retrouvez les références sur le site internet de France Inter. La météo tout de suite.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et c'est un vrai temps de Toussaint que vous nous annoncez, Jean-Michel Golinski.
Poursuite du mauvais temps sur la plupart des régions cet après-midi, souvent pluvieux et venteux. On notera quand même le retour d'un ciel un peu plus clément sur la façade ouest, mais c'est surtout autour de la Méditerranée que les quantités de pluie seront les plus fortes, avec à la clé le Gard, l'Ardèche, la Lozère et le Var en vigilance orange, forte pluie, inondation, doublée d'un orange cru pour le Gard et l'Ardèche. Dans le détail, sur les Cévennes, les précipitations toujours denses vont s'estomper en début de nuit prochaine, en se décalant dans un premier temps vers les plaines de l'Hérault et du Gard, puis demain vers les Alpes du Sud, la Provence et l'Est de la Corse. Et puis sur le Var, en particulier sur la bande littorale, l'ambiance instable et orageuse va donner cet après-midi et également une partie de la nuit prochaine des averses intenses et par conséquent de très forts volumes d'eau en très peu de temps.
Jean-Michel Golinski de Météo France.